22, verset 36, Matthieu 22, 36, où Jésus lui-même parle du cœur entier comme étant prioritaire. Matthieu chapitre 22, verset 36. Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Aimer Dieu, c'est la priorité des priorités. Mais aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Ce soir, est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Quand nous nous sommes convertis, nous avons aimé Dieu de tout notre cœur et prêt à tout sacrifier pour être sauvés parce que nous avons entendu et reconnu sa parole comme étant la vérité et l'unique vérité. Et je crois qu'il faut garder ce premier amour, ce que j'ai contre toi, Éphèse, la première des assemblées à laquelle sont adressées les épîtres de l'Apocalypse, la première assemblée de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, première en, certainement en nombre, en maturité. Mais ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour que tu avais au début, le cœur entier, le cœur converti, c'est le cœur entier. Amen. Alors, nous pouvons avec le temps peut-être avoir mûri et se prévaloir de bien des choses comme cette assemblée des fêtes étant reconnue. Mais si nous n'avons plus l'amour, nous ne sommes plus grand-chose. Nous ne sommes rien. Un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est la priorité quand le religieux lui dit « C'est quoi le plus grand commandement ?» On tend l'oreille et on pense qu'on va entendre que le Seigneur va nous dire qu'il y a quelque chose à faire. Mais en fait, non, il n'y a pas quelque chose à faire, il faut aimer. Aimer, c'est plus que faire. On peut donner le change dans nos actions. On peut être courageux, travailleur. On peut être obéissant même et faire beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est d'aimer. C'est d'aimer. Le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et Jésus dit, de toute notre pensée. Amen. De toute notre pensée. Alors là, ça fait réfléchir. D'ailleurs, on aurait pu méditer ce soir à chaque aspect de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, dit l'Ancien Testament. De toute sa pensée, dit Jésus aussi. De toute sa pensée. Il faut savoir se décharger de nos soucis. Parce qu'on n'aime pas Dieu de toute notre pensée quand toute notre pensée va pour nos inquiétudes. Et que deux fois nos pensées sont éparses, sont prises par d'autres choses que Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on va penser à Dieu constamment, mais dans notre cœur, régulièrement, nous serons orientés vers le Seigneur. Et l'aimer de toute notre pensée, c'est apprendre des fois à dire stop à ces pensées errantes, vagabondes, ces pensées incessantes qui tournoient dans notre esprit. Et on ne fait que de penser à une inquiétude ou à un objet qu'on voudrait acheter, ou que sais-je encore. Pour aimer Dieu de toute notre pensée, il faut libérer notre pensée. Apprenons à confier au Seigneur nos soucis et à ne pas avoir un œil malade. Jésus a dit, si ton œil est malade, ton corps va être dans les ténèbres, parce que l'œil est la lampe de l'être intérieur. L'œil sert à éclairer l'être intérieur. Et si notre œil est malade, si notre œil regarde à plein de choses, et aujourd'hui, avec toutes les sollicitations du monde moderne. On en a des choses à voir et à regarder. Mais si notre œil est malade, cela risque d'obscurcir nos pensées. Pour aimer Dieu de toute notre pensée, il faut avoir un œil en bonne santé. Aimer Dieu de toute notre pensée, c'est penser au Seigneur. C'est écrit « Sanctifiez Christ dans votre cœur, comme le Seigneur ». 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Et je crois que aussi ce qui est bien, c'est parfois, quand on pense des choses pour le Seigneur, c'est de les formuler aussi. Parfois, ça, je ne sais pas si ça vous arrive dans la journée, on pense à des choses, mais ça, il faudrait que j'en parle au Seigneur. Mais on est en train de faire quelque chose, ce n'est pas forcément adapté, quoique tout au long de la journée, on peut parler au Seigneur, même en faisant bien les choses, et c'est bon d'apprendre ça. D'apprendre, même au travail, on regarde s'il n'y a pas les collègues, parce que sinon ils vont le prendre pour un fou quand même. On regarde si on n'est pas, on est discrètement là dans un coin, puis on parle au Seigneur. Parce que le Seigneur vient d'avoir une pensée pour le Seigneur et là tout de suite on veut l'exprimer. Seigneur, c'est vrai. Là je reconnais, j'ai besoin de progresser dans ce domaine-là. Viens me faire grâce. Amen. Parce que des fois, on oublie nos méditations, nos pensées. Et on n'en parle pas au Seigneur. Et je crois que c'est important d'aimer Dieu de toute notre pensée, en les lui exprimant, en les lui partageant. Alors, Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il paraît qu'il y a des gens qui savent faire plein de choses. J'ai lu un article en son temps, scientifique, qui démontrerait qu'en fait, il est impossible à l'être humain de faire plusieurs tâches sans avoir un moment de négligence pour ces tâches-là. En tout cas, Jésus a dit, on ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon à la fois. Mammon, la personnification de la richesse, l'idole. Israël était idolâtre en étant partagé. Israël a rarement, c'est arrivé peut-être du temps d'Aca, dans les temps les plus noirs, où Israël a carrément rejeté Dieu. Mais d'une façon générale, Israël a toujours cru en l'Éternel. Mais pas tout entièrement, parce qu'en même temps, Israël avait souvent des idoles. Il était capable d'adorer le seul et l'unique éternel, Dieu, et en même temps d'avoir des idoles. Le cœur partagé, c'est de continuer à croire en Dieu, mais de ne pas avoir que Dieu, d'avoir aussi dans sa vie des idoles, des choses auxquelles on est attaché et qui nous détournent du Dieu vivant et vrai. Un cœur tout entier. Alors on va lire dans 2 Chroniques, chapitre 14, verset 8, le cas du roi Asa. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 8. Asa a été un bon roi. 2 Chroniques, 14, verset 8. Zéra, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Maresha. Asa marcha au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata près de Maresha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Belle expérience de cet homme de Dieu qui avait un cœur entier et qui s'est appuyé dans un moment très effrayant, seulement sur le Seigneur. Et Dieu a répondu à cette foi du cœur entier d'Asa. Malheureusement, nous allons lire maintenant notre passage. Nous allons voir qu'il n'a pas su garder ce cœur entier. Alors, chapitre 16, verset 1 à 9. Chapitre 16, verset 1 à 9. la 36e année du règne d'Asa. Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il battit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel, de la maison du roi. C'est toujours mauvais quand un roi vide les trésors du temple. C'est toujours mauvais. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Neftali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba de Mitzpa. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, c'est-à-dire le prophète, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit : parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers ? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Amen. Amen. Avec le temps, Asa a perdu ce cœur entier. C'était pire avec le million d'Éthiopiens. Mais il avait un cœur entier. Il avait peur de s'appuyer sur lui. Et plus tard, c'était encore une difficulté. Mais là, cette difficulté a révélé où il en était. Il avait perdu ce cœur pour le Seigneur. Et il a essayé de trouver d'autres solutions qui ont fonctionné. Et c'est ça qui est terrible dans notre vie, c'est quand parfois nos solutions fonctionnent. On peut se dire, après tout, ah ben c'était pas mal. Parce que si c'est mal, ça aurait pas marché. Mais que ça fonctionne ou pas, c'est pas toujours le critère que Dieu est avec nous, vous savez. Et si ça fonctionnait, mais Dieu a vu que la fin ne justifie pas les moyens. Et qu'il fallait pas faire alliance et s'appuyer sur le Syrien, mais s'appuyer que sur le Seigneur. Amen. Avec le temps, on peut s'appuyer sur d'autres choses que sur Dieu. Notre cœur peut être gagné, attiré par d'autres choses. Et au final, Asa, dans cette situation, il était devenu très susceptible et il ne pouvait plus entendre la vérité. Quand l'homme de Dieu est envoyé pour lui dire la vérité, c'est sûr et certain, c'est parce que Dieu voulait donner à Asa l'occasion de se repentir et de retrouver son cœur entier. Amen. Jamais Dieu nous parle pour nous condamner. Mais quand Dieu nous dit la vérité, c'est pour nous libérer. La vérité nous libère, mais il faut l'accepter. Et quand on n'est plus tout à fait consacré au Seigneur, on ne supporte plus beaucoup la vérité. C'est un signe aussi. J'ai constaté cela quand, il y a bien longtemps, quand nous étions parfois entre pasteurs, dans certaines années, beaucoup de pasteurs s'humiliaient, demandaient au Seigneur grâce pour son peuple et pour nous. Et ce que j'ai constaté, c'est que plus ça allait mal, moins j'ai entendu des prières de supplication, des prières pour que Dieu fasse grâce. Et vous savez, je ne crois pas des fois que quand on prie comme si tout va bien, c'est vraiment parce que tout va bien. Je pense plutôt que des fois, quand on n'est plus entièrement au Seigneur, on se satisfait d'autres appuis.
comme ce roi s'est satisfait d'une alliance avec le Syrien. Alors oui, il a eu ce secours, mais il a perdu l'essentiel. Il a perdu cette foi entière dans le Seigneur. Et pour nous, nous ne voudrions pas que dans nos vies ça marche. Nous ne voudrions pas avant tout que tout puisse nous sourire. Nous voudrions surtout rester jusqu'à la fin entier pour le Seigneur. Amen. Comme quand il est venu nous chercher. Quand il était bien faible et fragile, mais il nous a toujours secourus et nous a toujours protégés. Amen. Alors, la fin du message, c'est le psaume 86, verset 11. Parce que si l'on en reste là, on pourrait se dire, eh bien, qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais je crois que Dieu sait agir sur le cœur. Parce que quelqu'un dira, mais quand le cœur n'y est plus, que voulez-vous que l'on fasse? Eh bien, le psaume 86, verset 11, nous dit ceci. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. Vous vous rappelez, David, dans le pire moment de sa vie, il était vraiment en grand danger. De perdre son âme, il venait de tuer, de commettre adultère. Et cela durait depuis des mois. Et l'homme de Dieu vient. Et là, c'est toujours ça qui a fait la différence avec David par rapport à Asa, qui m'est offert le prophète. David a toujours su s'humilier. David, quelle qu'a été sa situation, a toujours su, dans son cœur, reconnaître le Seigneur. Alléluia. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Ô Dieu. Dans un psaume qui exprime sa repentance en cette circonstance. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand il dit crée en moi un cœur pur, c'est fort. Ça se rapproche de la nouvelle alliance avec la promesse du nouveau cœur, de chair et non de pierre. Parce que le cœur de la chair, il est incurable. Qui peut le connaître, dit Jérémie. Il ne faut pas améliorer notre cœur, il nous faut un autre cœur. Alors Dieu dit, David dit, j'ai besoin d'un autre cœur. Crée en moi un cœur pur. Parce que le mien, il est foncièrement mauvais. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ici, David dit aussi, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Non, ce n'est pas notre cœur qui décide. C'est Dieu qui peut agir sur notre cœur. Amen. De telle sorte que quand des fois, en tant que chrétien, on peut sentir que le cœur n'est plus tout entier. On peut sentir que le cœur est partagé. Qu'on n'a plus le même goût pour prier. Qu'on n'a plus envie de lire la parole. Qu'on vient en réunion, mais c'est plus comme avant. Ben, quand le cœur n'est plus tout entier, il ne reste qu'une seule chose. C'est de dire, Seigneur, dispose mon cœur. Redonne-moi un cœur nouveau. Amen. Change mes dispositions. Réoriente-le vers toi. J'ai tout, mais en fait, j'ai rien. Parce que si je te perds toi, je n'ai plus rien du tout. Seigneur, redonne-moi un cœur entier. Amen. Et ça, je le sais, Dieu peut agir sur notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Alors on va chanter ensemble.